BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine hebdomadaire sur le monde du travail. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Happy Boulot. Le programme de cette première émission, il commence avec Nicolas Fritz, notre premier invité, directeur des opérations d'une belle licorne française, Content Square. Avec lui, on parlera de comment on continue à recruter efficacement dans ce secteur de la tech, impacté évidemment par la conjoncture, et puis aussi de comment on passe d'une start-up de quelques employés à 1500 salariés dans le monde entier. Le deuxième invité, c'est Christian Bogos. Avec lui, on reviendra sur le phénomène de la grande démission. On se demandera, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une grande illusion? Et puis pour conclure, on accueillera Deskeo et Frank Zorn, son cofondateur. Deskeo, c'est un des acteurs du travail partagé, des bureaux à partager. Avec lui, on discutera des bonnes résolutions des Français pour cette rentrée 2022. A tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
Et le premier invité de notre émission, c'est Nicolas Fritz. Bonjour Nicolas.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des opérations de Content Square, une start-up qu'on ne présente plus tout à fait à BFM Business, mais quand même qu'il va falloir présenter, résumer en quelques mots. Avec vous, on est dans l'UX, dans l'expérience utilisateur. Pitchez-nous. Allez, ça fait longtemps. Ouais. Ce que fait Content Square.
Si vous voulez, quand vous allez sur une interface digitale, des fois vous vivez une expérience qui est vraiment très très compliquée. Des fois vous vivez une expérience qui est géniale et vous avez envie de revenir sur cette interface. Content Square, on aide nos clients à bâtir les meilleures expériences possibles en leur fournissant de la data, ce qu'on appelle des insights également, qui leur permettent donc de mieux comprendre quelle est l'expérience qu'ils proposent aux utilisateurs, quels sont les points de blocage, les points de friction, ce qu'on appelle, et d'apporter en permanence des améliorations pour que cette expérience soit la plus belle possible, pour qu'ils puissent consommer un maximum sur ces interfaces.
Alors, on va parler de vous en tant que directeur des opérations. Les sujets RH et sujets recrutement, c'est une grosse partie de votre travail quotidien. Mais d'abord, un mot de votre cœur de métier. Content Square, ça a 10 ans, 2012. Vous avez rejoint la boîte en 2015. La récolte de données, la récolte de data pour améliorer l'UX, l'expérience client. En 10 ans, qu'est-ce qui a changé, si vous deviez résumer?
Je pense qu'il a changé, c'est que quand on a démarré Content Square, et moi-même j'étais client de Content Square avant de rejoindre, c'est que c'était un nice to have, c'est-à-dire que quelque part on se disait on n'est pas obligé de faire ça, on va plutôt optimiser son trafic, on va optimiser tout un tas de choses, mais finalement l'expérience utilisateur c'est un petit peu secondaire et ce sera la cerise sur le gâteau. Et ce qui a vraiment changé en 10 ans, c'est que ces nice to have sont devenus ce qu'on appelle en anglais des must have, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde s'équipe, tout le monde a besoin de cet outil qui est essentiel pour, une fois plus, comprendre et optimiser son expérience utilisateur sur ses interfaces digitales.
Alors, aujourd'hui, Content Square, c'est une boîte qui est valorisée plus de 5 milliards d'euros ou dollars pour arrondir. Qu'est-ce qui a changé pour vous, pour vos équipes, en termes de profil à recruter en 10 ans et surtout depuis que vous avez passé cette barrière des 5 milliards de valorisation? Est-ce que vous allez recruter plus de cadres, plus de développeurs, plus de techniciens, plus de profils ingénieurs pour continuer à améliorer votre technologie? Ou au contraire, justement, le challenge pour vous, c'est d'arriver à recruter dans toutes les business units, dans toutes les équipes de votre entreprise?
On continue à recruter vraiment partout. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on décide de lever des fonds pour accélérer, on investit en particulier sur deux métiers, que sont tous les métiers techniques pour accélérer notre roadmap R&D, donc améliorer notre produit, développer des nouveaux produits, donc sur toute la partie tech, et puis sur toute la partie business, c'est-à-dire des profils de marketing, des profils de vendeurs, des profils de customer success pour gérer nos clients existants. Et on continue à le faire. Ce qui a peut-être changé sur ces dernières levées de fonds, sur ces dernières années, c'est qu'on va recruter des profils de plus en plus internationaux, et puis aussi des profils adaptés à la taille de l'entreprise aujourd'hui, par exemple en termes de management, puisque les équipes ont pas mal grossi.
5 milliards, c'est votre valorisation actuelle en 2022. Est-ce que on peut dire que vous avez à peu près 1500 personnes qui travaillent chez vous dans le monde entier? C'est la France, votre plus gros lieu d'emploi?
Oui, ça reste la France.
Est-ce que vous pouvez nous dire dans combien de pays vous éditez vos fiches de paie?
Alors, c'est une bonne question parce qu'en plus, on a aujourd'hui des collaborateurs qui sont à l'étranger. Et qui travaillent de la maison, donc on commence vraiment à avoir une dispersion assez forte. J'ai pas le chiffre précis, mais je dois vous donner une estimation assez juste en vous disant 17.
comment ça se passe, le travail au quotidien dans une boîte avec 1500 personnes dans, arrondissons, 17 pays? Qu'est-ce qui a évolué avec la fin du confinement, avec la fin des confinements, et comment vous anticipez la rentrée 2022 dans les modes de travail au pluriel, dans votre organisation du travail? Est-ce que, comme dans beaucoup de boîtes de la tech, le credo c'est 100% remote, 100% à distance, ou est-ce que vous avez mis un petit peu d'eau dans votre vin et aujourd'hui vous avez un peu un mode de fonctionnement propre à Content Square?
Quand le Covid est arrivé avec toutes ses conséquences, on s'est posé pas mal de questions comme tout le monde. Nous, on a une culture d'entreprise chez Content Square qui est en partie quand même pas mal basée sur le présentiel. On a créé un bureau à Paris, puis après à Londres, puis Munich, puis New York, etc. Et c'est vrai que la vie dans nos bureaux, c'est un élément qui est important pour la culture d'entreprise et aussi pour nos salariés. Ils ont acheté une expérience dans une entreprise où on va au bureau, on rencontre ses collègues, on va à la machine à café avec eux, on est créatif avec eux, etc. Et donc, on n'a pas voulu casser tout ça. On s'est malgré tout adapté. S'adapter pour nous, ça voulait dire 2 à 3 jours en présentiel et le reste en full remote. Et nous, on va continuer sur ce credo-là qui consiste à être plutôt dans une approche hybride parce qu'on pense que c'est ça le meilleur des deux mondes.
Est-ce que justement cette approche meilleure des deux mondes, c'est un des arguments de recrutement et de rétention chez Content Square? Autrement dit, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le turnover chez vous? Est-ce qu'il est bon par rapport à vos concurrents? Est-ce que, comme beaucoup de boîtes, vous pâtissez d'une guerre des talents dans la tech qui fait que voilà, il faut rester aux aguets tout le temps? Comment vous vous positionnez?
Alors, on suit, on a des métriques comme ça qui sont partagées sur le marché. On parle beaucoup avec nos pairs, avec nos concurrents, comme vous le dites, sur cette partie-là. Nous, on sait qu'on est plutôt bien positionné chez Content Square en termes d'attrition. On ne sent pas de mouvement particulier. On n'a pas l'impression, par exemple, de perdre des salariés parce qu'on est moins disant sur ce sujet que d'autres. On constate en fait que aussi il y a beaucoup de gens qui cherchent des expériences qui sont pas que des expériences de travail pur à la maison. Ils sont contents d'aller au bureau, ils sont contents de vivre comme ça. Donc nous, on a une approche, une fois de plus, qui est très flexible, très ouverte. On a des gens aussi qui sont en full remote, c'est-à-dire qui sont en pur télétravail, qui bossent de la maison. Ça représente aujourd'hui environ 20% de notre effectif. Et on a envie de continuer sur ce trend-là.
Un mot sur une des techniques pour réussir à recruter dans un monde de talents pénurique, c'est l'acquihiring. Alors, on va comme définir ce que c'est que ce néologisme. En gros, c'est le concept de, on fait une acquisition d'une boîte, une plus petite boîte, et on se sert en fait de sa workforce, de son équipe pour renforcer la sienne. Est-ce que c'est une technique que vous observez beaucoup autour de vous? Est-ce que c'est une technique que vous pratiquez chez Content Square? Comment vous positionnez?
Oui, on l'a pratiquée une fois. On a fait l'acquisition d'une entreprise qui avait 90% de son effectif qui était des data scientists, et on était en pleine recherche de profils. On a eu une opportunité puisque cette entreprise cherchait à se faire racheter, et donc on a effectivement récupéré très vite comme ça des talents. Oui, ça fait partie de notre stratégie sur la partie acquisition. On est en train d'explorer d'autres cas de ce type. Donc oui, c'est quelque chose qu'on considère, effectivement.
Voilà, Nicolas, vous avez un long morceau de carrière chez Content Square. Pour le coup, vous n'avez pas eu la bougeotte comparé à beaucoup d'autres employés dans la tech. Un mot pour les fondateurs, les fondatrices, les start-upers qui nous écoutent, qui, eux, sont dans une phase beaucoup moins développée que la licorne pour laquelle vous travaillez. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller sur, justement, comment on appréhende les difficultés de recrutement? Comment on fait le conseil, voilà, de la licorne aux plus petites start-ups qui nous écoutent, et aussi applicable d'ailleurs aux PME qui nous écoutent?
Moi, il y a deux choses qui me viennent spontanément à l'esprit, qu'on a fait chez Content Square et que je ne regrette vraiment pas. La première, c'est qu'on a beaucoup capitalisé sur notre culture d'entreprise. C'est-à-dire, on a vraiment travaillé sur qui nous sommes et quelle est la promesse qu'on fait à nos salariés sur l'expérience qu'ils vont vivre chez Content Square. Donc, on a travaillé sur notre culture, nos valeurs, notre style de management, etc., pour leur proposer quelque chose de particulier chez Content Square qui correspond aussi à leurs attentes et à ce que nous sommes, fondateurs et dirigeants de cette entreprise. Et le deuxième, c'est de savoir partager la valeur qui est créée, notamment à travers les stock options, l'ouverture du capital. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait très très tôt. Et si on a des bons niveaux de rétention aussi, on sait que c'est pour toutes ces raisons-là.
Même à 1500 personnes?
Même à 1500 personnes, oui.
Bon, les difficultés de recrutement, on va en parler dans notre deuxième partie d'émission. Évidemment, la grande démission, la grande rotation, on va en discuter un peu plus en longueur. Merci beaucoup, Nicolas Fritz. Je rappelle que vous êtes CEO, directeur des opérations de Content Square.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
on va réfléchir à ce terme qui commence à être un petit peu galvaudé, de la grande démission. Tout le monde en parle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne serait pas une illusion conjoncturelle? C'est en tout cas le parti pris qu'on va prendre dans cette émission avec Christian Bogoche. Bonjour Christian.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur du cabinet Les Temps Nouveaux. On va réfléchir avec vous de l'objet de tous les débats, de la grande démission. C'est soi-disant le synonyme d'une nouvelle ère où les employés quitteraient leurs employeurs pour le néant, ou en tout cas un endroit avec l'herbe plus verte. Est-ce que c'est une illusion d'après vous?
Alors si on regarde les chiffres, il n'y a rien d'anormal. 2,7% de démission au premier trimestre 2022 sur l'ensemble des actifs, donc 2,7%. C'est pas le raz-de-marée des États-Unis. En fait, il y a eu une sorte de mimétisme par rapport à la grande démission des États-Unis où là, il y a des millions de personnes qui ont décidé de dire non à leurs conditions de travail.
Depuis quoi, 24 mois?
À peu près, c'est ça. Et puis après la grande réflexion, on va dire, pendant la pandémie, où on a réfléchi à tout ça. En France, donc on a un peu mis la loupe sur ce chiffre-là parce qu'il y avait une sorte de mimétisme. Mm-hmm. 2,7%, c'est la moyenne. C'est la moyenne. C'est un peu plus haut que 2019, mais c'est le taux de 2008. Donc, c'est une illusion parce que ce n'est pas un raz-de-marée. C'est une réalité, en revanche. Et il faut comprendre pourquoi il y a une accélération des grandes démissions. D'ailleurs, les DRH vous disent souvent, c'est étonnant que quand il y a une embellie économique dehors, il y a des démissions dedans. Donc, les choses sont assez corrélées. Quand dehors, il fait froid, on reste au chaud. Donc, la question, c'est maintenant de comprendre pourquoi on parle aujourd'hui de ces grandes démissions.
Alors, il y a un autre chiffre pour illustrer cette grande démission, c'est que 8 personnes sur 10 qui ont démissionné ont retrouvé un emploi dans les 6 mois. Alors, après tout, pourquoi pas, si c'était le moment de changer de boulot, est-ce que, Christian, vous avez des pistes pour expliquer la volonté des salariés, des employés, parce que c'est d'eux dont on parle, de quitter leur boîte? Qu'est-ce qui les fait partir?
Alors, souvent, c'est un non-alignement avec ce qu'ils ont envie de vivre, de faire et de construire. C'est globalement, il y a un système de management qui correspond pas du tout à mon système, à moi, par exemple. Moi, je préfère qu'on me fasse confiance plutôt qu'on me donne des ordres à exécuter. Je préfère vous proposer des idées, donc prendre des initiatives, plutôt que d'exécuter des consignes sans réfléchir. Il y a ce désalignement qui crée la première difficulté et peut-être la raison d'un départ pour aller chercher quelque chose sur lequel on va s'épanouir. Deux, il ne faut pas l'occulter, il y a le problème du salaire. Le problème du salaire, alors ça dépend évidemment des catégories, des conditions, des grilles de salaire, on est d'accord. Mais globalement, dans une entreprise, il y a des grilles de salaire et on ne peut pas faire des bons de X% dans la même entreprise.
Il faut souvent sortir pour rentrer.
Il faut sortir pour gagner plus, quitte à revenir après avec le nouveau salaire, par exemple. Donc c'est une raison de départ. La troisième raison de départ, c'est l'utilité. À quoi je sers? Est-ce que mon travail va être reconnu? Et l'utilité de l'entreprise dans la société. Vous voyez, il y a plein de raisons qui font que, j'allais dire, c'est le moment de commencer à regarder ailleurs. Et peut-être que je peux tout de suite enchaîner en disant peut-être que c'était le moment. Parce que le marché est en train de se durcir, l'inflation...
Là, on se parle, on est fin août, début septembre.
Absolument. On envisage que le début de l'année 2023 va être un peu plus difficile que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc peut-être que la fenêtre de tir est en train de se réduire.
Un des arguments que vous évoquiez, c'est le sens. On a du mal à travailler à la tâche comme on le faisait avant. Maintenant, on veut une mission, mais on ne peut pas offrir une mission à tous ces salariés. Où est-ce qu'on le peut, d'après vous?
Oui, parce que ça dépend ce qu'on met derrière mission. Mission, c'est je t'explique pourquoi tu fais ça. C'est une mission. Et non pas fais ça et ne réfléchis pas. Ce qui est le système de la tâche. Vous savez, la tâche, on découpe un gâteau en tranches et on prend juste une tranche, mais on ne voit pas l'ensemble du gâteau. Donc, on peut tout à fait donner des missions. Une mission, c'est simplement, je m'inscris dans un schéma global et je sais ce que je fais et à quoi je sers. Et je pense que c'est valable pour tout le monde.
Un autre des mots très galvaudés en cette rentrée 2022, c'est l'expression « quiet quitting », qu'on va traduire par « démission silencieuse » en bon français. Je vous cite un de nos amis de BFM Business, c'est Marc Fiorentino, qui est évidemment un éminent spécialiste des marchés financiers et un intervenant régulier sur notre antenne, qui dit « le quiet quitting, la grande démission, c'est déjà du passé. Le vrai sujet maintenant, c'est ce quiet quitting. Il s'agit de rester dans son job, mais de faire le strict minimum, pas plus, et d'utiliser une partie de son temps de travail pour faire d'autres choses, en l'occurrence d'autres choses plus personnelles. » Comment on réagit quand on est employeur en face d'une partie de sa population de salariés qui est en train de faire du quiet quitting?
Et c'est le vrai sujet des dirigeants et surtout des DRH et des managers de proximité. Alors, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on est en train de dire et de vivre, c'est qu'on est en train de repeindre avec des couleurs modernes des tendances qui existent depuis un certain nombre d'années. Par exemple, Gallup fait un sondage tous les ans sur les employeurs dans le monde, dont les employeurs français, mais depuis une dizaine d'années. Et on sait que globalement, en moyenne, il y a 9% des salariés français qui sont engagés, il y a 65% des salariés français qui se disent peu engagés, c'est ça, je fais ce que vous me dites de faire, rien de plus. Et si j'ai du temps libre, je fais des trucs pour moi.
En fait, le mot sous-jacent, c'est l'engagement ou le désengagement.
Et vous avez quand même 25% des salariés français qui se disent désengagés. Désengagés, ça veut dire que je fais de l'activisme anti-entreprise. Hein. Donc, voyez, imaginez une sorte de grand mapping. Vous avez 9% en haut, vous avez 65% en centre et vous avez 25% au milieu. Le sujet des DRH et des dirigeants, c'est ces 65%. C'est comment faire pour les réengager et pour qu'ils produisent, qu'ils donnent des initiatives, qu'ils donnent des idées. C'est ça la démission silencieuse aujourd'hui.
Alors, je vais vous citer l'avis de Bruno Coquet, qui est économiste et puis chercheur associé à l'OFCE. Il parle de la grande démission en demandant est-ce que ça cacherait pas un grand licenciement ? Parce que derrière une démission, il y a aussi parfois un employeur, une employeur qui doit se séparer de quelqu'un. Si on se met du point de vue de l'employeur, comment on la gère d'un point de vue RH, cette grande démission ? Qu'est-ce qu'on a comme option sur la table et comment on gère sa communication d'entreprise et de marque employeur ?
Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse unique à tous les cas de figure. Ce qu'on peut regarder, c'est que quand on regarde les deux courbes et les deux chiffres, ce dont on parle là, c'est aussi les ruptures conventionnelles.
Ouais.
Donc il y a un cumul, licenciement et rupture conventionnelle. Et on sait que dans cette reprise, il y a eu une augmentation des ruptures conventionnelles. Et vous savez qu'une rupture conventionnelle, c'est quand même un accord de gré à gré des deux parties pour se quitter sous la forme d'un licenciement. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais je sais pas si c'est une vraie tendance qu'il faut corréler dans cette rentrée-là.
On essaiera de regarder la granularité derrière ces démissions pour voir effectivement le poids des ruptures conventionnelles. Un mot quand même dans la conjoncture actuelle, une pensée pour les patrons et les patronnes de PME qui eux aussi ont du mal à recruter, qui peut-être aussi sont dans cette grosse vague de démissions / rotation. Avant l'été, on disait que presque 9 PME sur 10 galéraient à recruter. Trouver le bon profil dans une conjoncture où déjà il manque des gens et en plus on a des gens qui sont en train de se repositionner, de se retrouver. Comment on fait ?
Alors moi je voudrais juste apporter deux éléments. Sur ce sujet précisément, on a constaté qu'effectivement ils n'ont soit pas du tout de CV, soit quand ils en ont, ça ne fonctionne pas. Et on s'est dit donc il n'y a pas de candidat. Donc il y a une pénurie de candidats qui fait que d'un coup, les PME vont se mettre à l'arrêt. Sans doute, c'est sans doute le cas dans certains cas, deux fois cas, hein, le cas dans certains cas. Mais en revanche, c'est le sujet des critères de recrutement. Si on ne change pas les critères de recrutement, ceux qu'on avait établis avant, je ne vois pas comment ça pourrait marcher après. Donc il faut changer les critères de recrutement. Changer son logiciel, changer son approche du candidat. Par exemple, il y a des marronniers. Par exemple, le CV. Le CV, c'est un marronnier. Maintenant, les études montrent que 80% des échecs sont dus au CV. Je vais le positiver. 20% des succès d'un recrutement, c'est dû au CV. Donc, il y a 8 sur 10 qui échouent si je ne regarde que le CV. On demande 10 ans d'expérience. Ça ne sert à rien, l'expérience. Le monde a changé. Donc, il faut demander beaucoup moins. On demande 36 diplômes. Ça ne sert à rien d'en avoir 36. Un seul suffit. Il faut réapprendre. Donc, vous voyez, on peut dire qu'aujourd'hui, quand on veut vraiment recruter, il y a trois sujets qui sont assez transversaux à tous les recrutements. C'est un, savoir coopérer avec les autres, savoir collaborer avec les autres. Ça, c'est une qualité qu'on n'apprend pas à l'école ou dans certaines écoles, oui, pas dans toutes.
Mais c'est universel dans tous les jobs.
Et c'est universel, savoir coopérer. Deux, savoir lire les émotions chez les autres. Et ça, c'est majeur. Maintenant, parce qu'on est destiné à travailler ensemble, si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à lire l'effet que vous avez sur l'autre, ben vous pouvez faire des erreurs. Et le troisième, c'est quand même avoir un peu de savoir-faire et surtout savoir gérer la complexité. Donc si on résume, je dois savoir gérer des choses complexes, je dois savoir travailler avec les autres et je dois savoir lire les émotions chez les autres. Vous voyez, c'est pas sur un CV qu'on voit ça.
Voilà les trois mots de la fin, vous avez entendu, coopération, lire les émotions et puis quand même un savoir-faire qui peut s'acquérir sur le terrain. Merci beaucoup Christian Bogos, cofondateur des Temps Nouveaux, avec nous sur ce sujet, grande démission, grande rotation, grand renouveau.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
Dans cette troisième partie d'émission, on va vous parler d'un sondage sur les bonnes résolutions des Français avec la rentrée. Et pour parler de ce sondage, on accueille Franck Zorn. Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Deskeo. Alors avec vous, avec l'équipe de Deskeo, on est dans tout ce qui est solutions de bureaux hybrides, flex. Vous travaillez, vous opérez à Paris et en France presque 85 000 mètres carrés de bureaux. Vous êtes au service de pas mal de PME, de start-up, d'entreprises de l'écosystème français. Alors, vous avez sondé, vous avez questionné les Français sur leur bonne résolution de rentrée. Dites-nous, qu'est-ce que les Français vont faire de mieux en ce mois de septembre 2022 ?
Voilà, on a sondé environ 20 000 personnes dans notre entourage. Et il y a quelques classiques parmi les réponses, mais il y a aussi quelques points qui sont un peu intéressants et nouveaux. Donc la première réponse avec 48%, c'est que les Français souhaitent s'accorder plus de temps pour eux-mêmes.
Prendre du temps pour soi.
Exactement.
Ça, c'est le premier truc.
Et je pense que ça va durer un ou deux semaines jusqu'au moment où la réalité nous rattrape.
Comme les résolutions du nouvel an, en fait.
Exactement. Et là où ça devient intéressant, c'est la deuxième réponse la plus importante, avec 44%, c'est que les Français souhaitent s'engager davantage pour leur environnement. Et je pense que ça... on n'aurait pas eu le même résultat avant l'été.
L'été, évidemment, avec les catastrophes climatiques qu'on a vécues.
Exactement. C'était l'été avec des vagues de chaleur, avec des forêts qui ont brûlé, avec donc beaucoup d'événements qui ont créé une prise de conscience assez importante et qui ont, comme on voit, un réel impact sur la conscience des Français. Et ensuite, donc on trouve bien sûr aussi le sport. 39% des Français souhaitent faire plus de sport. 25% souhaitent apporter plus de plats de maison au bureau.
Des plats préparés pour le bureau. Ça rentre un peu aussi dans la catégorie prendre du temps pour soi.
Exactement.
Et puis manger sainement pour être dans un meilleur corps.
Exactement, exactement. 21% veulent démarrer une formation. 20% souhaitent développer un nouveau projet professionnel. Il y en a certains 18% qui souhaitent rien changer. Ils sont contents. Tant mieux. 12,5% déclarent vouloir arrêter de fumer. Donc ça, c'est un classique aussi. Et 7% souhaitent changer de job.
Oui, et ça nous donne un peu un aperçu de l'état d'esprit des salariés français, des employés français avec la rentrée. On va revenir rapidement sur cette dimension environnementale. Il y avait le MEDEF, la rencontre des entrepreneurs français qui se tenait organisée par le MEDEF cette semaine. Elisabeth Borne, la Première ministre, a dit... Voilà, la sobriété écologique, c'est une contrainte, un impératif et puis aussi une opportunité. Elle dit chaque entreprise doit se mobiliser et agir. Mmh. Qu'est-ce que vous avez, Franck, comme recommandation pour les entreprises dont, on l'a dit, 44% des salariés veulent voir leur entreprise agir? Qu'est-ce que ces entreprises, elles peuvent faire pour activement agir pour l'environnement sans être dans le greenwashing, sans être dans on se ripolline la façade en vert?
Donc là, je peux parler un peu de notre exemple, de Deskeo. Donc, nous avons fait pas mal de choses depuis des années. Donc, on a remplacé, par exemple, des bouteilles plastiques, des gobelets par des fontaines d'eau,
ouais.
Les machines à café avec des capsules, avec des machines en graines. On a installé très tôt des capteurs de luminosité et de présence, par exemple, dans les salles de réunion pour économiser de l'énergie. Et c'est l'année dernière où on s'est dit, bon... On ne sait pas exactement quel est l'impact qu'on a. Et donc, c'est là où on a décidé, je le recommande aussi à faire pour d'autres entreprises, de mesurer l'impact carbone. Et donc là, il y a des associations et des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine. Il y a l'ADEME, une institution étatique, donc, qui permet... de mesurer l'impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et nous, on a fait ça pour Deskeo, donc pour notre entreprise. On est une centaine de collaborateurs. Mais on l'a fait aussi pour tout notre parc immobilier où on gère pour des centaines d'entreprises et des milliers de salariés des bureaux. Et donc, ce qu'on a trouvé pour notre cas, donc la première chose qui est très importante, l'immobilier est contributeur à 38%
De l'empreinte carbone.
Donc ça, c'est énorme. Donc bien sûr, c'est beaucoup la construction, donc monter les murs, mais c'est aussi l'aménagement. Et donc pour nous, il s'agit de réfléchir, bien quand on aménage des lieux, comment est-ce qu'on peut l'aménager pour que même si dans notre métier, des sociétés changent, des locataires changent, pour qu'on utilise le plus longtemps possible tous les aménagements qu'on a fait.
Le même espace aménagé.
Exactement. Et comment est-ce qu'on peut travailler avec des solutions qui sont modulables pour adapter des surfaces à des différents usages qui sont en train de changer et basculer avec le modèle hybride de travail qu'on vient de vivre et établir. Et donc, on a vu que donc l'aménagement, c'est un des plus grands facteurs. Et après, bien sûr, c'est aussi le chauffage, la climatisation et toutes les consommations qu'on a pendant l'opération d'exploitation de bureaux. Et donc, c'est là où il y a des choses qui sont tellement évidentes, mais pareil, il faut d'abord, je pense, les mesurer. Il y a beaucoup de bureaux qui sont chauffés le week-end.
Eh oui.
Il y a les lumières qui sont allumées le week-end.
La clim allumée alors qu'on est en dessous de 26 degrés, ou le chauffage allumé alors qu'il fait plus que 20 degrés.
Exactement. Donc nous, on a mesuré d'abord l'impact au début. Après, on a développé avec des partenaires des outils qui permettent à n'importe quel moment de mesurer la consommation. Et donc pour détecter justement en fait quand on consomme de l'énergie, surtout chauffage et clim, quand il n'y a pas d'utilisation ou quand elle n'est pas adaptée, donc trop de clim, trop de chauffage, etc. Et donc on optimise ça pour tout notre parc et pour nos clients pour économiser donc de l'énergie et réduire l'impact carbone.
Merci beaucoup Franck. Évidemment, ce sujet chauffage, énergie, gaz, on en reparlera forcément cet hiver dans votre vie de bureau, dans votre vie d'entreprise. Merci d'avoir été avec nous, Franck Zorn, cofondateur de Deskeo. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur notre plateforme de replay, mais aussi notre plateforme de podcast. Si vous nous regardez en direct ou bien en replay, il vous suffit de flasher le petit QR code qui s'affiche. Merci de nous avoir suivis, c'était Happy Boulot le Mag. À très vite.
Merci beaucoup.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.